Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Et avant de parler du tourisme et du 44e salon du tourisme qui dit beaucoup de notre rapport aux vacances, on prolonge quelques instants ce que Marion vient d'évoquer, cette grève de l'école pour le climat, mouvement mondial à l'appel de la petite Greta, cette adolescente pleine de conscience écologique. Elle a 16 ans et elle a réussi ce tour de force. 1600 villes du monde mobilisées et des milliers de lycéens et d'étudiants dans les rues de France aujourd'hui. Je vous fais réagir Anaïs Lane tout de suite, étudiante en master de droit de l'environnement. Vous avez signé la tribune dans l'hebdomadaire Le 1 cette semaine. Peuvent-ils sauver la Terre ? Juste un mot parce que Marion en parlait. Quel est l'intérêt de bloquer par exemple le siège de la Société Générale ? Est-ce qu'on ne mélange pas un peu tout là pour le coup ?
Non, on ne mélange pas tout. L'action, on a vu par exemple que la Société Générale avait un impact très négatif en matière environnementale de par ses investissements. Je pense que l'engagement, il doit persister, il doit être omniprésent, tout un chacun. Vous, auditeurs, actuellement, vous devez vous interroger dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous consommez ? Qu'est-ce que vous faites qui pollue, qui engendre des pollutions, qui grève le climat? Il faut continuer à s'interroger perpétuellement dans sa vie quotidienne. Par exemple, ça passe par arrêter de consommer des produits dont on ne comprend pas la composition. C'est simple, mais si nous-mêmes ne comprenons pas la composition, alors qu'en est-il des effets sur le climat? Il faut revenir à de la simplicité.
C'est la jeune femme de 25 ans qui dit ça, qui est très sensible à cette cause, et vous allez en faire votre métier, la défense de l'environnement?
C'est exactement ça.
Je voudrais faire réagir Jean-Paul qui est avec nous au 39-21. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour.
Bonjour Jean-Paul. Je vous ai enfin en ligne. Alors profitez de ce temps précieux qui vous est donné parce que vous avez une jolie proposition à faire sur le sujet.
Ah oui, plaisanterie Wendy. Oui, c'est une proposition qui me tient à cœur. J'entends des expressions comme aller plus loin, plus vite, plus fort,
oui.
Mettre les politiques au pied du mur. Je pense qu'il faudrait prolonger ce beau mouvement lycéen à l'échelle du monde,
oui.
En organisant, faisant organiser par l'ONU, pourquoi pas, un référendum d'initiative humanitaire, c'est-à-dire à l'échelle de la planète. En posant cette question simple, voulez-vous vraiment sauver l'humanité? Voilà. Et la question est simple. La réponse, j'espère qu'elle serait positive. Et dans ce cas, je pense que les politiques, nos gouvernants, n'auraient vraiment plus de raison d'hésiter, d'écouter les lobbies, mais d'écouter l'humanité tout entière qui leur demande de faire en sorte de sauver notre descendance.
Mais oui, vous avez raison, Jean-Paul, parce que sauver la planète, c'est aussi sauver ceux qui la peuplent, la faune, la flore et l'humanité. Louis, est-ce que vous pouvez réagir à cette proposition de notre auditeur Jean-Paul? Vous êtes, Louis, président de l'Union nationale lycéenne. Un référendum planétaire sur l'ONU avec une question qui pourrait engager donc plusieurs milliards d'individus.
Oui, après, moi, ce qu'on voit, c'est que cette grève, c'est plus une grève occidentale qu'une grève mondiale, parce que, il y a d'autres pays qui, là, sont en développement industriel, et ces pays-là, ils sont un peu contraints de devoir polluer pour pouvoir se développer. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les compagnies qui polluent le plus, c'est les compagnies occidentales, et ce que je vois, c'est surtout que les gouvernements occidentaux ne font rien, et en fait, on ne pourra que sortir de cette crise climatique en passant avec une union de tous les pays du monde. Et nous, d'ailleurs, c'est une demande qu'on a fait au président de la République, puisqu'on lui a envoyé nos propositions. On a demandé l'organisation d'un sommet mondial de l'écologie, sur lequel on laisserait surtout parler les jeunes, mais en entendant Gabriel Attal avant, on sent que s'ils disent oui, on fait des choses, on sent qu'ils ne vont pas assez loin parce qu'ils ne peuvent pas aller assez loin, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit aussi Nicolas Hulot, et c'est pour ça qu'il a démissionné. La force des lobbies aujourd'hui est trop forte, et tant qu'ils n'arriveront pas à dépasser ça, et en fait, on sera toujours dans le même pétrin, et nous, en 2050, on n'arrivera plus à respirer.
Oui, alors mouvement occidental peut-être, sauf que le président de la République était à Nairobi au Kenya hier, où s'est tenu pour la première fois sur une terre africaine le grand sommet One Planet Summit à Naïsland. Ça, c'était fort de montrer aussi que l'Afrique voulait s'investir totalement dans cette transition, qu'elle ne voulait pas rester dans le bas-côté, même si lui faut faire plus d'efforts parce qu'elle n'a pas les moyens et les richesses aujourd'hui que nous avons.
Oui, je pense que le président va chercher des alliés dans des pays ou des continents même plus largement où il peut en avoir. Par exemple, peut-être que le dialogue est actuellement difficile avec les États-Unis, mais il faut viser d'autres territoires, rallier d'autres pays, et je pense aussi, comme le disait Gabriel Attal tout à l'heure, que l'Union européenne urbaine est un outil qu'il va falloir exploiter pleinement en matière environnementale.
Parce que en effet, les causes sont européennes et mondiales. Merci à Jean-Paul de cette proposition, ce référendum planétaire avec l'ONU pour poser la question à tous ceux qui la peuplent, cette planète. Je voudrais qu'on termine, chers amis, avec ces mots lancés dans le cadre du grand débat, parce que les contributions s'achèvent aujourd'hui, par un lycéen. Il y a quelques jours, ce lycéen s'appelle Charlie. Il a aussi un peu bouleversé les consciences. Et s'il peut y avoir plein de petits Charlie dans les rues aujourd'hui, c'est ce que vous attendez de vos voeux, à la fois Louis et Anaïs. Écoutez-le.
Je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyées au Nigeria, et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ?
Ah oui, quand on parle de naïveté des jeunes, eh bien, ils ont prouvé le contraire, hein, vraiment dans ces échanges. Anaïs, pour conclure, vous qui avez signé cette tribune, peuvent-ils sauver la Terre ? Ce petit Charlie fait partie des têtes pensantes de demain.
Oui, bien sûr. Valérie Giscard d'Estaing le disait déjà. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui s'empare de ce mouvement et qu'elle va rester derrière les politiciens et le gouvernement pour leur faire pression et leur dire qu'on ne lâchera pas le morceau. L'environnement est trop important. Nous voulons voir nos enfants vivre dans ce monde. Et je pense que dire que la jeunesse est naïve, enfin, il faut s'interroger à 15-16 ans, où est-ce que nous étions ? Enfin, on n'était pas dans la rue à se battre pour le climat. Aujourd'hui, la jeunesse, elle a au moins ce mérite-là. Elle prend position et ça, on ne peut que le saluer.
Oui, et c'est formidable de montrer en effet ce souffle. Simplement, il faut que ces manifestations se passent dans le civisme, dans le pacifisme, dans le calme, pour que ce message aille de plus en plus loin et de plus en plus fort. Merci de l'avoir représenté ici en studio. Je précise, ce magazine Le 1, cet hebdomadaire, peuvent-ils sauver la Terre ? Bien, c'est la Une, et vous avez signé et vous signez un article également. Merci Anaïs, merci à tous ceux qui nous ont appelés, Jean-Paul, Pierre-Yves, Rémi, Françoise. On s'intéresse maintenant au tourisme et peut-être au tourisme durable. Ça fait partie justement des différentes et nouvelles facettes pour le voyage. À tout de suite sur Europe.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1.
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Et ravie de vous accueillir, chers amis, pour cette seconde partie d'émission. Ce mois de mars, un peu perturbé, on va vous donner des envies d'ailleurs avec le 44e Salon du Tourisme qui vous accueille à Paris aujourd'hui et ce week-end, avec les destinations à la mode, avec les manières de voyager aujourd'hui, en couple, en famille, en thalasso, seul ou avec son bébé, de la location, de maison aux formules plus classiques des clubs de vacances. Quel secteur aujourd'hui on le vend en poupe ? Si vous aimez voyager et si vous avez le loisir de le faire, eh bien venez nous donner un petit peu vos trucs et astuces au 39-21. Est-ce que vous êtes guide ? Est-ce que vous êtes blogueur et influenceur, ça fait partie des nouvelles tendances. On vous attend avec Julie au standard.
Au 39-21.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et je suis ravie d'accueillir pour parler voyage et tourisme Jean Viard, sociologue et directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Bonjour Jean Viard.
Bonjour.
On va vous sortir un peu du grand débat, ça va vous faire du bien. On va pas parler politique, on va revenir un peu au classicisme de votre formation que j'adore. J'ai de très bons souvenirs d'émissions avec vous sur le sujet. Spécialiste des vacances et du tourisme aussi, vous allez nous décortiquer un peu ces nouvelles manières de voyager et ce rapport au voyage. Et avec Jean-Pierre Nadir. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Fondateur et président du site easyvoyage.com, dont vous nous rappellerez un petit peu le sens et l'essence. Je vais commencer avec cette citation d'un poète, Gustave Nadeau. « Rester, c'est exister, mais voyager, c'est vivre. » On n'est pas tous égaux devant le voyage. On a des hommes et des femmes très nomades, et puis au contraire, des sédentaires. Voyager, c'est forcément aller chercher un peu ailleurs ce qu'on n'a pas chez nous, Jean Viard ?
Oui, c'est se décaler. Alors, on n'est pas obligé d'aller voyager très loin. On peut voyager assez près, on peut voyager très loin. Il faut toujours se dire aussi qu'il y a une partie de l'humanité qui n'a pas le droit au voyage. C'est d'ailleurs un des grands conflits du monde moderne. Nous, on va visiter des pays, des gens qui ne peuvent pas venir chez nous. Si vous regardez les endroits où il y a des attentats, ça se chevauche beaucoup. Regardez ce qui se passe en Algérie, qui serait un pays touristique absolument magnifique. Et la libre circulation était arrêtée depuis 30 ans. C'est pour dire que le voyage influence tout ça. Au fond, on fait planète commune. On voit, puisqu'il y a 1 200 millions, 300 millions cette année de gens qui ont franchi une frontière pour voyager, pour le plaisir. C'est énorme. Si vous êtes dans l'histoire de l'humanité, vous vous rendez compte, il y a 1 milliard de cathos, 1 milliard de musulmans, il y a plus de touristes. Alors vous direz, ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire dans des grandes communautés. Bon. Donc, il se passe, au fond, on est en train de faire terre commune, mais il y en a qui n'ont pas le droit de le faire. Et c'est une des causes des grands conflits qu'on voit. Et ça, il faut le dire. Après, le voyage, ça pose, évidemment, c'est, je pense que si vous voulez voyager, moi je dis souvent voyager intègre. C'est-à-dire partir permet de revenir, enfin, c'est la vieille philosophie qu'on trouvait effectivement, ça permet d'aller voir l'autre, mais ça permet aussi de surtout de se voir en revenant. Parce qu'un voyage, c'est un projet, c'est un acte et c'est un récit. On raconte, on se raconte. Alors, il y a 50 ans, on annonçait longtemps à l'avance, vous savez, l'année prochaine, je vais à New York. Aujourd'hui, excusez-moi, ça fait complètement nul. Aujourd'hui, le lundi matin, on rend... Oh, hier, j'étais à New York. Voilà, donc c'est la version des processus. Mais voilà, non, mais je le dis un peu en riant. Je crois qu'il faut faire attention, parce qu'en ce moment, le voyage est attaqué d'un côté par des gens qui l'attaquent légitimement parce que n'y ont pas droit. C'est-à-dire la majorité de l'humanité. C'est quand même un problème absolument majeur. Et d'autre côté, parce que le voyage pollue. On considère qu'à peu près 8% des pollutions sont liées au voyage. Mais l'industrie pollue. Je veux dire, toute activité humaine pollue.
Bien sûr, mais on est dans une réflexion. On sort d'une heure sur le rapport au climat et à la planète et à ce tourisme de masse aussi qui s'intègre dans ces manières de voyager différentes.
Oui, mais le tourisme de masse, c'est d'abord un immense brassage culturel, esthétique, amoureux, etc.
Oui.
D'abord. Mais après, il y a des effets négatifs contre lesquels on peut lutter. Mais ce n'est pas parce que ça ne produit rien que c'est moins utile que de fabriquer une chose,
absolument,
si vous voulez.
Absolument.
Dire, c'est de la culture. C'est de la beauté, c'est du désir. Moi, je considère que c'est plus important que de changer de voiture. Et donc, on ne dit pas on va arrêter l'industrie automobile parce que ça pollue. Qu'il faille que tout diminue, la pollution est une catastrophe, c'est pas ce que je veux dire. Mais on attaque toujours le tourisme en premier, un peu comme c'est au fond, le tourisme, c'est pas tellement important pour y rester chez vous.
Non, mais
non, pas du tout.
Ce qu'on peut dire, Jean Viard, pour laisser réagir là-dessus Jean-Pierre Nadir, c'est que le tourisme de masse aujourd'hui, un certain nombre de voyageurs occidentaux, en tout cas, veulent en sortir avec des formules un peu plus à la carte qui ne les emmènent pas là où tout le monde va.
Oui, alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean, c'est-à-dire que ces pays où on va et où les gens ne peuvent pas venir chez nous, ils voient quand même aussi les bienfaits du tourisme au travers de l'emploi, au travers donc d'un niveau de vie donc qui normalement doit s'améliorer. C'est-à-dire que le tourisme a aussi une vocation donc éthique dans les pays où il va, donc en construction.
Oui, un peu plus maintenant qu'hier en tout cas.
Oui, bah, c'est parce qu'on parle effectivement des méfaits, il faut aussi parler des vertus. Et aujourd'hui, donc, vous avez des pays où 25% du PIB, c'est le tourisme. Donc l'impact sur la vie des gens est extrêmement importante. Et la rencontre avec l'autre, puisque encore une fois, donc, on part du principe que effectivement, le voyage donc, a limité les guerres en connaissant mieux l'autre et que le voyage donc, rend par définition intelligent parce qu'à la fois, il crée une rupture avec vos habitudes et en même temps, il vous amène voir ailleurs donc, comment ça se passe. Donc on ne revient jamais de la même manière. Il faut aussi voir que vous avez des voyageurs, mais vous avez aussi beaucoup de vacanciers. Dans ces 1,3 milliard de gens, vous avez des gens qui se déplacent parce qu'ils veulent
juste
passer
se reposer,
une semaine au soleil, dans des bonnes conditions, et ils n'ont pas un tempérament de grands voyageurs. Ceci étant, le peu de voyages qu'ils vont voir, dans les excursions qu'ils vont faire, dans les rapports qu'ils auront donc, avec le personnel de l'hôtel, ça va aussi les amener sans doute à considérer donc, les choses différemment. Donc, voyager, c'est, je pense, une nécessité. On parlait à l'époque de Jacques Maillot de la Frontière du droit au voyage. Moi, j'en suis resté là. Je pense qu'effectivement, permettre aux gens de se déplacer, c'est évidemment donc, un avantage d'utilisation. Maintenant, ça a évidemment donc, des effets collatéraux. On a commencé à l'évoquer. Donc, évidemment que les voyagistes ont une responsabilité et doivent effectivement donc intégrer les problèmes écologiques.
Alors, on va voir dans ce concept justement comment ces formes de voyager se transforment éventuellement, Jean-Pierre Nadir, juste après une petite pause. Je vous fais réagir là-dessus avec un certain nombre de pourcentages statistiques qui pourront nous donner des idées, notamment sur le rapport à la randonnée aujourd'hui. A tout de suite sur Europe 1 avec Jean Viard et Jean-Pierre Nadir. À l'occasion du 44e Salon du Tourisme qui vous accueille à Paris aujourd'hui et ce week-end, nous parlons des nouvelles tendances, nous parlons des destinations à la mode et de la manière de voyager aujourd'hui. Wendy Bouchard.
Oui, Jean-Vierre avait une très belle formule tout à l'heure, sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste aussi des vacances et du tourisme. Partir, c'est se voir en revenant, c'est ensuite raconter ses voyages, c'est s'intégrer aussi d'une certaine manière. Jean-Pierre Nadir, fondateur et président du site Easy Voyage, est avec nous. Les Français partent en vacances hein, pour 60 à 66% d'entre eux, mais pas forcément à l'étranger. C'est loin d'être la majorité qui part à l'étranger.
On sait que le gros des troupes, effectivement, donc, reste en France. Donc, grosso modo, la part des Français qui vont à l'étranger, c'est entre 20 et 25% selon les années. Donc, finalement, c'est une petite minorité, même si on peut aussi dire que c'est un quart des partants. Puisque, comme l'a rappelé donc, Jean, on peut effectivement donc, voyager en restant près de chez soi. Il suffit de prendre sa voiture et d'aller en Espagne. Donc, c'est déjà, effectivement, donc, le début du voyage. On peut voyager, évidemment, donc, en France. Donc, les gros des troupes restent en France. France. C'est clair que le Français voyage principalement en France. Et dans ces modes donc, de vacances qui se sont le plus développés, on retrouve évidemment donc, le camping qui s'est complètement réinventé donc, sur l'hôtel des modèles de clubs de vacances, hein, puisqu'ils ont intégré maintenant donc, de l'habitat en dur avec les mobil-homes et les villas.
Oui, merci aussi à Fabien Antoniente avec ses quatre opus de camping qui a bien dopé le secteur.
Hein, oui, ceci étant, c'est souvent l'inverse. C'est-à-dire qu'ils sortent quand même sur une vague. Ils constatent un phénomène.
Comme les films, c'est les croisières. Voilà. C'est auto-alimenté. Hein,
c'est l'un nourrit l'autre et l'autre quand même sort sur la vague. Ouais. Mais c'est sûr qu'effectivement, donc ça, on avait eu les bronzés pour les clubs de vacances et on a camping, hein. Effectivement, donc des années plus tard. Vous avez tout à fait raison. Donc on voit bien que le camping est un modèle qui est assez formidable. Vous savez que le camping, c'est autant de nuitées en 6 mois, donc l'intégralité de l'hôtellerie hôtelière. Donc c'est un phénomène extrêmement important et qui, pour des sommes relativement, donc si ce n'est modeste, en tous les cas, donc correct, permet de passer une semaine avec de l'animation et avec une satisfaction donc générale.
C'est passionnant d'observer le comportement des voyageurs, je ne peux pas parler que des Français. Par exemple, on a des hôtels adults only, donc sans enfants. Janvier, ça existe, hein, ça fait partie des critères. On a envie de se reposer, on a envie de ne pas retrouver d'enfants. On a tout un rapport aussi à la manière dont on organise son voyage et dont on choisit la bonne formule.
Oui, vous avez aussi des hôtels qui ont été créés en des chambres à part pour les enfants, avec des personnes, des jeunes filles souvent, qui les gardent.
Oui. Oui,
il y a un hôtel en baie de Somme qui est une pure merveille, qui a un taux de remplissage exceptionnel, où il y a un service enfant.
Oui.
Alors, une hôtellerie, tout à fait normal. Donc, si vous voulez, le problème, c'est d'être attentif aux attentes des gens. Ils peuvent prendre un week-end en couple, parce que le couple est au cœur aussi du tourisme, de ses courts séjours, le couple, on va dire l'amour aussi. Il ne faut pas non plus... le tourisme, c'est pas que culturel, c'est aussi dans des sociétés où on est biactif, dans les ménages. Au fond, le moment où on se retrouve un peu tranquillement dans le couple, c'est souvent en vacances et en week-end. Et je dirais, nos couples en ont besoin. Parce que quand on voit qu'un couple sur deux se sépare à Paris avant 5 ans, il faut bien voir quand même que la biactivité des couples, etc., a rendu cette structure centrale totalement fragile. Et donc, vous voyez, ça on n'y pense pas, ce type de lien.
Ouais, c'est
voilà, donc il y a tout ça. Mais le problème, c'est d'observer les gens. C'est vrai que le camping, c'est pas qu'une question d'argent. Le camping a monté en qualité. Ils ont développé une autre culture. Mais il y a des gens qui vont. Moi, je connais des gens qui vont toujours au même endroit depuis 50 ans. Le camping, c'est une fidélité. Il y a une grande partie des places qui sont louées à l'année.
Ah oui, Claude Brasseur et Mylène de Mongeau. Jackie.
Le camping, c'est une forme de village à l'horizontale. Et ce que les gens adorent, c'est qu'ils sortent, ils sont par terre. C'est-à-dire que si vous voulez, vous êtes de plein pied. Non, mais c'est vrai, quand on habite en ville, dans un immeuble, d'un coup on sort, alors il y a 3 géraniums, mais c'est tout ce lien. Après, il y a un restaurant, il y a des lieux collectifs, il y a des activités pour les enfants, encore une fois.
Et puis, il y a un rôle social aussi d'égalité, parce que là, on parle beaucoup, effectivement, donc d'égalité. S'il y a bien un endroit dans lequel, effectivement, on nivelle donc, les milieux sociaux, c'est bien, effectivement, donc, le camping. Tout le monde est en short, en claquette et joue à la pétanque. Donc, ça redistribue aussi les cartes.
C'est la vertu du pastis.
Oui, puis nous, on n'a pas. Vous prenez les Hollandais, ils ont une culture du camping, vous avez des grosses Mercedes avec des trucs énormes,
oui, c'est pas
des
campings,
parce que eux, les gens qui ont de l'argent font du camping. Il y a aussi toutes ces différences-là entre les différents pays qui se mélangent. Voilà, mais comme de regarder l'importance nouvelle de la marche, c'est-à-dire toutes ces activités, j'allais dire, horizontales, on prend le camping, on peut prendre la marche, on peut trouver d'autres activités.
Et c'est très bien, parce qu'on va y venir juste après la pause, c'est au cœur du salon du tourisme, destination nature aussi, la marche, la randonnée qui a le vent en poupe, pourquoi aussi, c'est très citadin, on a envie de sortir un peu de notre pollution, de nos appartements, de nos petits studios, et on a envie de prendre l'air et d'être aussi dans un rapport particulier à la nature. Marianne Chandernagor, directrice du Salon Mondial du Tourisme de Paris, nous en dira quelques mots. A tout de suite. À l'occasion du Salon du Tourisme de Paris, nous vous disons ce matin ce que les voyages racontent de vous. Et on en vient à la randonnée, Wendy, parce qu'elle a le vent en poupe cette année.
Oui, et avec nos invités Jean-Pierre Nadir, fondateur et président du site easyvoyage.com, avec Jean Viard, sociologue, qui étudie aussi les vacances et le tourisme depuis plus de 30 ans. Je souligne juste un petit mot de Sylvie sur Twitter qui nous dit « Quelle belle définition, Jean Viard, ce que vous dites. Le voyage, c'est un projet, c'est un moment, c'est un récit. » Elle vous cite, vous êtes donc doublement cité sur l'antenne d'Europe 1.
Merci.
Parenthèse. Et nous sommes en effet avec Marianne Chandernagor, vous qui êtes directrice du Salon Mondial du Tourisme de Paris. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Et pas que du Salon du Tourisme de Paris, car en marge de ce salon, pendant les 3 jours qui viennent, nous avons aussi un salon Destination Nature. C'est dire que vraiment, cette tendance du rapport à la nature, et Jean Viard évoquait avant la pause, la marche, la randonnée, c'est une tendance très lourde qui se dessine.
Oui, c'est une tendance très lourde qui est en forte augmentation. Aujourd'hui, la randonnée pédestre est la première activité sportive des touristes, puisque depuis 2007, il y a une progression de 25% des séjours qui sont l'occasion de pratiquer la randonnée. Donc 21 millions de séjours des Français sont l'occasion de faire de la randonnée.
21 millions de séjours, quelle est la cible particulière ? Sont plutôt des jeunes, plutôt des citadins ?
Alors, c'est assez varié. Il y a des randonnées plus sportives, donc là, effectivement, un peu plus jeunes, un peu plus citadins. Puis certains pratiquent la randonnée plus sur un mode détente ou hédoniste, puisqu'on est vraiment dans ce rapport à la nature. Les profils sont vraiment variés, mais effectivement, il y a cette demande des citadins, ce besoin de déconnexion, ce besoin de reconnexion à la nature, donc déconnexion de l'environnement urbanisé, de reconnexion à la nature et de se ressourcer. La première vertu de la randonnée, c'est d'abord la découverte des pays. Évidemment, mais ce besoin-là de se reconnecter à la nature remonte aussi dans les besoins des voyageurs.
Et les tendances que vous voyez, c'est surtout la randonnée en France ou la randonnée à l'étranger ?
Alors, c'est principalement en France quand même. Hein, on disait tout à l'heure, beaucoup de touristes.
On a un beau terrain de jeu. Hein,
ouais. Voilà, encore plus sur la randonnée, à peu près 9 séjours sur 10 pour de la randonnée sont en France.
D'accord.
Donc c'est vraiment principalement, et ça peut être tout près de chez soi, hein, je disais tout à l'heure, c'est vraiment partir, c'est déjà partir juste aux frontières de chez soi, donc y compris sur un salon comme le nôtre qui est à Paris, la majorité se fait en Ile-de-France, qui est aussi un très beau territoire de randonnée.
Ah, c'est intéressant, et c'est vrai que Jean-Viard, ce qu'on note aussi, c'est que la plupart des vacances se font assez près de chez soi, justement.
Oui, parce que au fond, la dépense transport est minorée.
Et oui.
C'est pour ça que je dis, les Bordelais vont dans les Landes, les Marseillais vont plutôt sur cette côte-là, etc. Alors, il y a des régions malheureuses qui n'ont pas la mer ni la montagne, notamment Paris. Donc, toute la journée, on croit dans les médias que tous les Français fonctionnent comme les Parisiens. Vous êtes obligé de sortir de l'Île-de-France parce que vous avez ni la mer ni la montagne.
C'est le Marseillais qui me parle, c'est ça ?
Mais c'est pour dire que dans les autres régions, on a des pratiques forcément différentes. On va près de chez soi. Donc, ça, c'est une chose à dire. Je voudrais dire une chose sur la marche. Vous savez, les premiers marcheurs, c'est les chasseurs, les pêcheurs. Mmh. Il faut les penser parce que c'est quand même le même rapport à la nature un peu. C'est marcher lentement, c'est regarder ce qu'on a autour de soi, c'est sentir son corps fonctionner. Si vous voulez, tout ça, c'est un rapport aussi ces anciennes pratiques sociales qu'on méprise un peu dans les villes parce qu'on considère que ces gens ont des pratiques discutables. En fait, c'est aussi ce type de rapport où le corps permet de parcourir l'espace, de le découvrir. Vous voyez, la chasse, moi j'aimais bien à une époque, parce que vous vous levez tôt, il fait encore nuit, vous démarrez avec la lumière, c'est un rapport à la nature très particulier. Moi, je n'ai jamais rien attrapé, donc je suis un chasseur.
Non, mais je vous aime bien.
Mais ce n'est pas grave. Et il y a une chose, je voudrais dire, sur la marche. Je pense qu'on est très nombreux à avoir maintenant nos applications dans notre smartphone sur les kilomètres qu'on a parcourus chaque journée, et ça pousse à marcher. Moi, je sais que ça me pousse, je regarde à midi, non, quand même, tu pourrais faire 2 kilomètres, mais quand je suis à Paris, comme à la campagne. J'essaie d'avoir mon petit objectif moyen, et je pense que ça aussi, c'est tout ça s'ajoute à la technologie, la satisfaction, pouvoir dire, ah ben aujourd'hui j'ai fait mes 6 kilomètres, je m'y suis tenu.
Oui, on est dans un comportement plus vertueux. Alors Marianne Chandernagor disait 9 séjours sur 10 de randonnée se font en France, sauf que Jean-Pierre Nadir, on peut en profiter pour voyager aussi plus loin. Il y a des randonnées magnifiques au Gabon, Costa Rica, dans les Dom-Tom, Guadeloupe et Martinique,
partout,
évidemment Jean-Pierre.
On connaît tous donc le tour opérateur Terre d'Aventure qui a popularisé ce qu'on appelle le trekking, puisqu'en définitive, donc quand vous traversez le désert, on appelle ça un trekking. Et quand vous marchez donc le long de la côte en Bretagne, donc on appelle ça la randonnée. Mais enfin, à la fin, c'est à peu près la même chose. Et il faut saluer l'effort des communes, parce que si on reste en France, on a un nombre de chemins qui ont été réhabilités donc dans ce cadre-là, qui permettent aussi aujourd'hui justement ce développement, parce que toutes les communes ont développé. Et là, je salue surtout la Bretagne. On peut faire le tour de la Bretagne en suivant la côte. C'est absolument formidable. Et donc ça contribue évidemment donc à développer aussi donc de nouvelles formes de tourisme.
Oui.
Ce tourisme qu'on appelle le tourisme lent, hein, qui est un tourisme un peu différent,
puisqu'en fait, prend son temps.
On est passé d'un tourisme où on voulait tout voir, où en fait les gens prenaient la brochure, le tour opérateur et cochaient tous les sites et voulaient absolument donc tout faire. Je pense à l'Égypte où c'était impossible en 7 jours, mais on en mettait un maximum et on se levait à 4 heures du matin donc, et on finissait donc sur les genoux. Et à la fin, on ne savait même plus ce qu'on avait vu, tellement on avait vu de choses et qu'il y avait un surcontenu qui mettait une surpression qui à la fin faisait que finalement donc on ne savait même plus
ce qu'on avait fait. Ah, parce qu'on voulait tout raconter.
Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un tourisme contemplatif où en fait on en fait moins pour en vivre plus. Et c'est une vraie tendance de fond, c'est pas juste une formule. J'espère qu'elle va être reprise sur Twitter, comme celle de Jean.
Ouais. Alors, répétez.
Non, je dis, on en fait moins pour en vivre plus.
Voilà.
Parce qu'en fait, on ressent davantage les choses. Si on passe, l'exemple typique, c'est que si vous restez à Abou Simbel pendant une journée et que vous dormez même sur un bateau sur le lac Nasser, vous avez un rapport donc au site qui vous écrase et sur lequel vous vivez, avec, ce qu'a dit Jean tout à l'heure, le lever du soleil et le coucher du soleil, vous passez la journée avec le site, vous avez un rapport au site qui n'a rien à voir avec le fait de passer une heure en bus rapidement, de sortir en courant, de faire un selfie, rehausser dans le bus pour aller à l'étape d'après. Et donc les gens ont compris ça. Et de plus en plus de gens donc, veulent finalement donc, un tourisme différent, qu'on appelle parfois d'ailleurs à contre-courant, hein, où on essaye finalement de faire les choses différemment. Mmh. Parce qu'en fait, quand on veut bien les vivre, eh bien, il faut essayer de trouver effectivement donc, des astuces et pas être dans le flux général.
Vive le tourisme lent, dites-vous, Jean-Pierre Nadir, que je cite. On en fait moins pour en vivre plus. Exactement. Qui est plus cher.
Et c'est plus cher si on prend son temps, forcément.
Bah, si t'en vois moins,
c'est pas
forcément.
C'est pour ça que les gens vont vite et en 7 jours, ils font les gîtes.
Si tu vois moins de sites, pas forcément, parce que tu prends moins d'avions en vol intérieur. Tu vas moins effectivement donc prendre de bus, courir partout. Donc on peut effectivement donc avoir des budgets qui vont être à peu près identiques.
Et on raisonne son empreinte carbone.
Tout le pays.
Allez, Jean, avant la pause, très vite.
Non, mais juste une chose. Les premiers touristes, ils sortaient de leur monde. Ils n'avaient pas d'image. Et d'ailleurs, les bourgeois du 19e envoyaient l'année d'avant leur valet pour faire le voyage, pour qu'ils expliquent comment il fallait être habillé, quelle était la température, etc. C'est comme ça qu'on a inventé les guides. Nous, c'est l'inverse. On circule à l'intérieur du monde. Si je vous dis New York, vous avez une image. Si je vous dis Valparaiso, vous avez une image. On a tous vu tout. Et donc, la question, c'est plus... Vous arrivez en Égypte, vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu dans Tintin, d'abord,
oui,
parce
oui,
qu'en gros, c'est très, très proche de Tintin. Et donc, vous circulez dans un dedans. C'est complètement différent.
Dans un imaginaire
donc,
aussi.
Accumuler des choses qu'on a déjà vues, n'a pas très intéressant. Ressentir quelque chose de différent dans une chose qu'on a vue, notamment en étant plus lent, en faisant autre chose, en marchant, etc.
Ouais, c'est essentiel. Juste,
ouais. Mais c'est l'idée qu'on circule dans un dedans. C'est ça le monde aujourd'hui. Il n'y a plus d'extérieur.
Vous êtes
et ça
bon,
change
hein,
tout.
Vous êtes bon, messieurs Jean-Vierre, Jean-Pierre Nadir.
Vous avez les meilleurs.
Hein, oui, c'est bien. Je félicite mon équipe. C'était le jour J. Hein. Bravo les amis. À tout de suite, Marianne Schroeder-Dacon. Vous restez avec nous quelques instants. À tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose. Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. On ne faisait que passer devant et on regardait les bateaux. Le matin, on se réveillait tôt sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs.
C'est pas l'une des plus belles chansons liées au voyage, à l'altérité aussi, à la contemplation. Jean Viard est avec nous, sociologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF. Évidemment, il dit tant de choses dans cette chanson, Michel Jonas.
Bien sûr, et puis il met de l'émotion, et puis le voyage c'est ça aussi, c'est du sentiment, c'est de la recherche de beauté, c'est de l'affection. On est une société, on parle tout le temps d'argent, de pollution et tout, c'est important. Mais je veux dire, c'est quand même d'abord des lieux de joie, des lieux de bonheur. C'est ça qui se joue en fait, hein, dans les vacances, dans les voyages et tout ça. Il y a une chose dans les tendances, vous cherchez les tendances un peu du futur, une chose qui me frappe, c'est que les gens sont beaucoup plus avec leurs enfants.
Oui.
Parce qu'il y a 20 ans, souvent la dame travaillait pas ou peu. Et donc, effectivement, au fond, c'était le couple, le centre. Et maintenant, comme les enfants les voient moins, on les voit plus en vacances. Vous voyez, il y a tout ça qui se joue, la reconstruction de la famille dans les vacances, c'est un enjeu aussi majeur.
Ouais, et que les maisons de vacances restent un des lieux de prédilection des Français.
Maisons de vacances,
maisons de famille, maisons de campagne, maisons à la mer.
Ouais, je pense surtout là au club de vacances et au tout compris. Puisqu'en fait, dans la chanson, ce qu'on explique, c'est que certains se payent des glaces et ont juste les moyens de s'offrir des glaces. Oui. Et d'autres donc, ont des vacances différentes. Ce qu'il y a de bien dans le tout compris, justement, c'est que tout le monde a le droit à sa glace et tout le monde a le droit à sa gaufre. Et il y a juste à faire la queue, il n'y a pas besoin effectivement donc, de rajouter d'argent. Et je pense que ce all inclusive là, effectivement, donc, a aussi une vocation sociale, puisque ça permet à des gens, aujourd'hui pour 350 euros, on peut passer une semaine en Tunisie, donc dans un 3 étoiles all inclusive, et on n'a effectivement donc, pas à rajouter d'argent, donc il n'y a aussi là pas d'écart social entre les gens qui y sont. Et du reste,
merci
de vacances.
Merci de citer la Tunisie parce que ça va mieux, heureusement le secteur du tourisme repart un petit peu, c'est un, voilà, après le printemps arabe, ça a été tellement terrible.
Moi j'ai toujours été à fond pour mes amis tunisiens, évidemment, et parce qu'encore une fois, donc le tourisme est très important pour l'économie donc tunisienne. On le sait bien que depuis le printemps arabe, donc maintenant, il y a 10 ans, donc ils ont eu 2-3 années extrêmement compliquées. Hein, donc et là, ça va beaucoup mieux puisque cette année, il y aura à peu près 1 million de Français qui vont aller en Tunisie.
Formidable.
Donc je rappelle que le record historique c'est 1,3 million et que au pire, on en a eu 250 000. Donc là, c'est reparti. Les hôtels à nouveau donc vivent, les gens retravaillent et on revoit des sourires sur les visages. Et donc pour l'instant, en tous les cas, donc on touche du bois, donc la Tunisie est redevenue une grande destination touristique.
On va parler des tendances dans un instant. Juste un petit mot avec Marianne Chandernagor avant de vous libérer. Marianne, il y a une attente des Français sur un tourisme plus de sur-mesure qui s'échappe un peu du tourisme de masse qu'on évoquait tout à l'heure avec nos invités. Ça se ressent aussi très clairement à la fois au Salon du tourisme de Berlin il y a quelques jours et chez nous à Paris.
Oui, oui, évidemment. On parlait tout à l'heure du tourisme de masse. Nos visiteurs, ils ont envie un peu de sortir de ce tourisme-là, d'aller faire des activités qui sont sur mesure, d'avoir un voyage qui n'est pas celui que tout le monde va réaliser. On disait tout à l'heure que le tourisme dit beaucoup de ce qu'on est. Et aujourd'hui, le voyageur, il publie beaucoup, hein, notamment sur les réseaux sociaux, les voyages qu'il fait. Il a envie de montrer que ce qu'il fait, c'est spécifique, que ce n'est pas le voyage que fait son voisin. Mmh. Et donc, il recherche un voyage très personnalisé. On appelle aussi ça la carte sur mesure. Aussi pour prendre plus de temps. On parlait tout à l'heure du tourisme lent, d'un tourisme plus responsable. Mmh. Et donc, peut-être prendre moins l'avion quand on est dans un pays et puis passer plus de temps au sein des communautés, passer plus de temps à contempler, à profiter de la destination. Et donc, vraiment un voyage très, très personnalisé. On le voit aussi avec des exposants, des agences de voyage, oui, qui aujourd'hui ont tous des offres sur mesure qu'on trouve pas forcément dans la brochure, mais qu'on va
c'est
construire
ça.
Pas
ce que
à pas.
Ce que j'allais vous demander, Jean-Pierre Nadir, c'est que ce sur mesure-là, il peut être aussi fait par des agences. On le fait pas tout seul forcément en bouquant sur Internet ou
non,
en
non,
faisant
bien
notre
sûr.
Marché.
D'ailleurs, c'est le grand marché qui reste aux agences de voyage, puisque bien évidemment, il faut une expertise, faut connaître donc les conditions locales, faut avoir une vision donc de tous les acteurs locaux, faut connaître, j'ai dit tout à l'heure, donc par où on démarre, par où on termine et comment on fait pour éviter les flux, puisque c'est devenu aujourd'hui aussi un des vrai sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qui est le surtourisme. Mmh. Et donc, comment on fait pour éviter donc, les grands flux? Donc, finalement, les agences de voyage sont à nouveau au cœur du dispositif, oui, et ont à nouveau des raisons, effectivement, donc d'être consultées très fortement.
Je vous redonne la parole dans un instant. Jean Viard, Jean-Pierre Nadir, merci. Marianne Chandernagor, ce salon du tourisme a commencé hier pour tout le week-end encore. Et Sylvie Berthe nous dit sur Twitter: et lorsqu'on ne peut pas partir, les amis, s'installer au bord d'un ruisseau avec un bon bouquin, c'est voyager aussi. Mais je la remercie d'être à l'écoute de cette émission qui nous donne des envies quand même de partir. À tout de suite.
Allez, on prépare nos vacances. Dites-nous quelles sont les tendances pour cette année 2019.
Alors, Jean-Pierre Nadir, easyvoyage.com.
Je m'étais lancé déjà.
Oui, alors.
À la fois, on retrouve donc des grands classiques, donc que sont les destinations de proximité: Espagne, Italie, Grèce et le Portugal, puisque depuis maintenant 10 ans, on sait que le Portugal donc se développe très fortement et est la grande destination à la mode. Hein, donc les Portugais vont accueillir bientôt près de 20 millions de touristes. Ils en avaient 7 millions il y a 10 ans.
Et pourquoi le Portugal alors, plus que l'Espagne
D'abord parce qu'effectivement donc il y a un rapport qualité-prix qui est extrêmement favorable. Hein, donc ça, c'est toujours un élément très important.
C'est moins cher que l'Espagne ?
C'est moins cher que l'Espagne, exactement. Donc, c'est moins cher que l'Espagne. Et puis, vous avez, ils ont rénové, donc, une ville comme Lisbonne, une ville comme Porto, ont été entièrement, donc, rénovées. L'Algarve, c'est quand même une très, très belle destination, donc, balnéaire.
Très
ils ont
plage,
développé, donc, beaucoup l'hôtellerie. Le centre du Portugal, dont on parle plus rarement, donc, est aussi composé de régions, donc, assez magnifiques. Et donc, c'est une destination qui s'est beaucoup développée. Et dernier point, ils ont développé les vols au départ de France. Il y a 22 aéroports français, donc, qui reçoivent des avions qui vont vers le Portugal. Et donc, évidemment, quand vous avez une offre aérienne très forte, avec des petits prix, ça développe aussi énormément la destination. Mmh. Donc, on connaît l'importance des low-cost, et Ryanair et EasyJet, qui développent des destinations où personne ne serait jamais allé. Quand vous habitez Limoges et que vous avez un vol vers Faro, vous ne savez pas où c'est Faro, mais vous dites, tiens, pourquoi on n'irait pas à Faro?
La Tunisie, ça va mieux. L'Égypte, ça va très bien.
L'Égypte est repartie en boulet de canon, parce que ça fait quand même 3 ans que ça marche bien sur les croisières sur le Nil, mais il y avait que ça qui marchait. Et le balnéaire, maintenant, donc, est reparti. Donc, notamment, donc, Hurghada, Sharm el-Sheikh, hein, donc, ça, c'est aussi à souligner. Ensuite, vous avez Dubaï qui marche toujours très bien, puisque à 6 heures de vol, donc vous avez du soleil garanti l'hiver. Donc, évidemment, l'été, ça marche moins bien, hein, donc il fait 40 degrés.
Moment, en tout cas,
mais l'hiver, ça marche très très fort. Un peu plus loin, donc dans la zone Caraïbe, vous avez toujours la République dominicaine qui marche très fort. Cuba, qui est un peu en retrait, parce que c'était la grande destination à la mode, ça a un peu baissé parce que le niveau de prestation n'est pas toujours à la hauteur donc, de ce qu'on peut en attendre. Par contre, il y a un tourisme chez l'habitant, on ne l'a pas encore cité, qui développe beaucoup à Cuba, qui est absolument donc, formidable. On a des casas particulières, on dort chez l'habitant, on mange avec les habitants, et là on partage de vraies expériences, on en parlait tout à l'heure. Ce qui est une grande tendance effectivement donc, du voyage, puisque même dans les clubs de vacances, les Kappa Club par exemple, proposent maintenant des déjeuners chez l'habitant. Donc là, il y a un besoin de rencontre, d'échange.
Hein, comme vous disiez, Jean-Vierre, tout à l'heure, la Thaïlande qui est une destination qui fonctionne encore, le Japon également. Retour chez l'habitant, c'est aussi ce qui explique le boom des gîtes ruraux, et y compris tout près des grandes villes. Jean-Vierre, vous avez un peu étudié le sujet. Parce
que c'est intéressant. Ça veut dire que ce qu'on cherche, c'est toujours du lien, en réalité.
Oui,
c'est du lien avec des gens avec qui on est parti, généralement un couple, pas toujours, mais une famille. 70% des gens partent en famille avec deux générations souvent, ou un frère, une sœur qui est seule qu'on emmène. Enfin bon, c'est plutôt les femmes seules qu'on emmène parce que les femmes seules circulent très peu. Donc ça construit. Donc c'est ce lien-là qu'on renforce. Et puis le lien avec un territoire, le lien avec les gens. Je veux dire, il faut jamais oublier que ce qu'on cherche toujours, c'est des relations, c'est des conversations, c'est qu'on nous explique le lieu où on est, qu'on nous explique. Et alors, ce qui est marrant, c'est que les gens, vous voyez, les gens qui vont en vacances à côté d'un golf, ils jouent pas au golf. Et on leur dit, alors c'était bien le golf. Ah, c'était génial. Mais t'as pas joué? Non, mais j'aurais pu jouer. Et non, mais c'est important parce que les vacances, c'est cette possibilité de liberté.
De se projeter.
On n'est pas obligé de faire, mais on aurait pu faire. Et je crois que de même, c'est pareil, pas à côté d'un château, ils ne l'ont pas visité. Mais ils auraient pu le visiter. Et si vous voulez, c'est ce droit à la liberté de faire ou ne pas faire, mais il faut que l'offre y soit. Et après, on peut le faire. Donc je crois que c'est tout ça auquel il faut être attentif. Ne jamais oublier que le tourisme, c'est des hommes qui parlent à des hommes et qui voient d'autres hommes. C'est le cœur du métier, de la relation et de l'enjeu.
En fait. Et qu'ensuite, on peut intégrer dans des guides ou sur des blogs, car cette influence aussi de la communauté et des followers se diffuse énormément et très prescriptrice. Pardon, nous sommes en ligne avec un blogueur, Marc Nous. Bonjour Marc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous avez créé un blog sur lequel vous répertoriez vos expériences touristiques, c'est marknous.com. Vous êtes ce qu'on appelle un influenceur, voyage, photographe, vous êtes très présent sur Instagram, sur Facebook, et tout est parti de votre passion pour la photo. Aujourd'hui, vous avez vraiment des gens qui vous suivent et qui écoutent vos conseils comme on écouterait les conseils d'un guide, papier ou vivant et oral.
C'est ça, en fait, c'est parti, c'est venu un petit peu par hasard. Moi, c'était vraiment pour partager ma passion de la photo en premier et des voyages ensuite. À l'époque, tout ce qui était influence n'existait pas encore, on ne connaissait même pas le mot. Et depuis 3-4 ans, ça a vraiment pris une autre dimension. Et donc maintenant, je suis en voyage à peu près 8 mois sur 12 dans l'année, sur différentes destinations, que ce soit en France ou à travers le monde.
Oui.
Et les gens me suivent, me demandent des conseils sur chaque destination où je vais.
Ça veut dire que vous vivez de ce travail d'influenceur aujourd'hui, Marc ?
C'est ça, tout à fait. Que ce soit par des organismes de tourisme, des clubs de vacances, des ministères de tourisme, des groupes hôteliers qui me font venir sur place en me demandant un certain nombre de contenus. Donc que ce soit des photos sur Instagram ou que ce soit un article plus complet sur le blog.
Oui, vous étiez restaurateur au départ, donc vous aviez déjà cette envie de partage, de lien. Le dernier pays que vous avez visité, c'est l'Arabie Saoudite. Alors là, vous le recommandez par exemple à qui ?
Alors, je recommande ça. Chacun est libre de faire son choix. Par contre, moi j'ai été vraiment surpris parce que c'est vrai qu'on est beaucoup de clichés concernant l'Arabie Saoudite. Mais bon, ils ont décidé d'ouvrir le pays au tourisme pour 2020-2021, puisque pour le moment, il n'y a toujours pas de visas touristiques qui sont délivrés. Mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Maintenant, le désert de Al-Hula avec tout le site de Madain Saleh, qui est une espèce de Petra puissance 100, c'est vraiment incroyable à voir. Et puis, personne n'y a mis les pieds, donc c'est vraiment très impressionnant.
Voilà, marknous.com, c'est votre blog sur lequel vous partagez vos expériences touristiques. Et je vais vous faire réagir pour terminer, Jean-Pierre à dire et Jean-Viard sur ce phénomène des blogs des particuliers, des anonymes qui vraiment traduisent leurs expériences et qui sont très suivis.
Ça c'est le grand changement effectivement donc du monde dans lequel on vit. C'est que Jean en a dit un mot tout à l'heure, c'est que aujourd'hui l'information est disponible et que finalement ton client d'aujourd'hui est ton ambassadeur de demain et que comme diraient les gilets jaunes, donc tout journaliste et donc l'expérience des uns nourrit effectivement donc celle des autres. Il y a un grand partage mondial. On sait qu'il y a à peu près donc 1000 selfies postées donc chaque seconde sur Facebook. Il y a plus de 240 milliards donc, d'images sur Facebook. Donc, il y a une masse de contenu absolument incroyable.
Et les commentaires sur les sites de voyage sont très importants.
Et donc, sur lequel on peut voir ce qui se passe en temps réel. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, où effectivement, on avait les témoignages, mais toujours a posteriori. Donc là, en temps réel, on sait, on a les soubresauts du monde, qu'ils soient positifs donc, ou négatifs. Et donc, dans, dans cette création de contenu spontané, il y a des gens qui se dégagent, qu'on appelle donc les influenceurs. On vient d'en avoir un. Mais finalement, on est tous influenceurs. Vous êtes une influenceuse aussi, Wendy. Donc, Jean en est un. Donc, à nous tous, on influence aussi. Chacun influence l'autre et on est aussi influencé par les autres. Donc, il y a une dynamique commune qui se crée, donc assez intéressante. Alors après, il y a des gens qui en font profession. Et je comprends que l'Arabie Saoudite ait besoin peut-être de préparer le terrain à un futur touristique.
Oui, mais manifestement, il y en a qui font plus confiance à des anonymes qu'à des guides aujourd'hui, j'en viens.
Oui, mais parce qu'il y a 150 ans, les premiers guides, c'était pareil. Le Johan, tout
oui,
ça,
c'était des relais,
pareil, ouais. Sauf que c'était papier. Au début, on s'est dit, mais pourquoi on écrit ça et donc, si vous voulez, c'est genre, je vous ai dit, au 19e, on a envoyé son valet faire le voyage avant pour qu'il vous le raconte et vous prépare. Après, petit à petit, le valet a écrit le livre et il en a fait un guide. Et aujourd'hui, au fond, on découvre la même chose avec Internet. C'est-à-dire, c'est la même, sauf que c'est interactif en direct. Donc, c'est évidemment, mais au fond, c'est la même demande. C'est qu'on va à un lieu qui a été mis en désir par quelqu'un qui est légitime à vous le dire.
C'était passionnant, messieurs, et je termine avec une citation qui est pour vous, Julie. Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait. Et c'est un grand marin qui a le sens des horizons, Loïc Perron, qui dit ça.
Ah, j'adore.
Voilà. Merci infiniment. Jean-Pierre Nadir, on renvoie à votre site comparateur aussi de voyage, qui est très, très performant, easyvoyage.com. Jean Viard, merci. Si vous voulez replonger dans vos recherches, Triomphe d'une utopie, vacances, loisirs, c'était aux éditions de l'Aube en 2015. Merci,
et
monsieur.
Ça sort en poche le mois prochain.
Ah, bah, génial. Bah voilà, on est d'accord. Merci. Bon week-end à vous tous, chers amis. Merci de votre fidélité. Et à lundi.
À lundi. C'était Wendy Bouchard.